Ce matin, Joa m'a confirmé qu'il ne pouvait pas faire le talk aujourd'hui. Parce que, a priori, on s'est entendu que moi je faisais hier et lui il faisait aujourd'hui. Donc, ok. ce n'est pas que je me prépare longtemps en avance pour un talk. J'étais bien entraînée par mon teacher, mon maître, Geno Roshi, de ne pas se préparer. Mais quand même, il y a une certaine posture, une certaine attitude quand on dit « Ok, aujourd'hui, je dois dire quelque chose, donc je me mets un peu dans cette posture-là. » Ah, c'était quoi ça?
Franchement.
C'était quoi? On ne sait pas ce que c'était.
Dans une maison là-bas.
Ah bon? Non, c'est à nous, c'est dans
c'était
notre maison.
Ici, je crois.
C'est dans notre maison, c'est un truc de... Mais je me souviens de ce bruit.
Ouais,
c'est un, je me souviens de ce bruit.
Ouais, ça venait de par ici. Hein.
Oui, non, non, mais c'est tous les ans.
Et donc, voilà, l'inconnu se présente. Il y a le bruit, et puis ça s'arrête. On fait pas le dermatoque, et puis on a fait... Et j'accueille l'inconnu, comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais accueillir cet inconnu. Et c'est une espèce de mise en abîme. Donc, mon talk est à propos de l'inconnu, quelque chose comme ça. Et puis, on s'assoit et avant qu'on sonne la cloche, quelqu'un frappe à la porte. L'inconnu de nouveau, l'inattendu. Marjolaine descend, elle répond tout de suite. Pas de problème. L'imprévu, on répond. Ce qui est véritablement ce qu'on fait dans notre vie pratiquement tout le temps. Donc on se demande, mais pourquoi ça devient tellement compliqué parfois de ne pas répondre directement? Ben, on sait pourquoi, mais on va venir à ça après. Donc, elle descend. Tout le monde probablement est en train de penser qui est à la porte, pourquoi ils ont sonné, c'est quoi,
Qu'est-ce qu'il a dit?
Quoi?
Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur?
Ah oui, mais avant, on ne savait pas que c'était un monsieur à la porte, hein, on ne savait pas. Vous pouvez imaginer, bah, toutes les portes étaient fermées, Joe était enfermé dehors. On pouvait, oui, quelqu'un arrive pour le sécher, hein, comme on n'entendait pas, je ne sais pas. Il y avait tout un tas de possibilités. La femme des ménages qui vient, oh, on ne m'a pas dit de ne pas venir aujourd'hui, je ne sais pas. Quoi? Quoi?
La police.
La police, oui, on ne sait pas.
Les séchines sont interdites.
Quoi?
Les séchines sont interdites.
Voilà.
C'est trop subversif.
C'est exact, c'est trop radical. Donc, on ne sait pas. On a quelques secondes de s'occuper de nos pensées, et puis on entend le monsieur qui dit, je suis le voisin, est-ce que vous avez de l'électricité? Et, donc, tout de suite... Adrien, regarde. Oui, on a l'électricité. J'imagine que Marjolaine a fait la même chose.
J'ai appuyé sur un bouton.
Voilà, c'est ce que Adrien a dit aussi. Et donc, on voit la posture du monsieur qui se rend compte qu'il n'a pas l'électricité chez lui. Il envisage, je sais pas la suite de la conversation avec Marjolaine, mais il envisage des possibilités dans sa maison. Ah! C'est l'inconnu, l'inattendu. Donc, il s'ouvre à ça et il va faire une enquête. Il va venir voir les voisins. Sans lancer dans un truc certitude, c'est pour cette raison-là. Je vais appeler l'EDF ou c'est la faute des voisins ou je ne sais pas ce que c'est les possibilités sur lesquelles il aurait pu se borner, mais il ne l'a pas fait. Il vient ici. Il pose des questions à Marjolaine. Ils ont un petit échange. Ok. Donc, l'imprévu s'introduit de nouveau. Avant, même ma zazen, qui était déjà, je me prêtais à me plonger dans l'inattendu et l'inconnu, et un nouveau inconnu, complètement inconnu, se présente. D'habitude, les inconnus dans le zazen, c'est un peu les mêmes. Ou c'est on s'ouvre et on accueille ce qui est, mais c'est la première fois ici que quelqu'un frappe à la porte et c'est ce que j'accueille. Il y avait d'autres inconnus, hein. Il y avait des chats qui descendaient sur le toit, je pense qu'il y avait d'autres choses ici, je ne me souviens pas. Mais... il peut y avoir un orage, on ferme les fenêtres, je ne sais pas. Et donc, je m'ouvre à ça, à cet inattendu, cet inconnu, et je, comme on dit, quand on cite toujours ces trois étapes du peacemaker, c'est je porte témoignage, donc je ne sais pas ce que c'est, j'écoute, Marjolaine qui va, j'écoute, je ne sais pas de nouveau ce qui se passe. L'action que je prends à la suite de ça, c'est juste de m'asseoir. C'était la réponse la plus appropriée dans cet instant-là, c'était juste de m'asseoir ici. Le monsieur, j'imagine, il a trouvé une autre démarche. Il a fait d'autres choses, je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez, c'est assez simple, en fait. Mais on s'en mêle les pinceaux, comme on dit, de mille façons. On complique la vie d'une façon, mais des façons inimaginables. Insensées. Donc, je me disais, OK, donc qu'est-ce que ça a à voir avec toute cette pratique qu'on fait ici? Il y a ces trois étapes, comme je dis, de not knowing, ne pas savoir. Et ne pas savoir, ce n'est pas la même chose que je ne sais pas. Vous voyez, c'est différent. Si je dis je sais, c'est une chose. Je ne sais pas, c'est le contraire. Mais ne pas savoir, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est... Ne pas savoir, c'est je ne sais pas si je sais ou si je ne sais pas. Mm-hmm. Ne pas savoir. Mm-hmm. Pour ça, il s'agit de lâcher tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais ce qui n'est pas évident à faire. C'est-à-dire nos certitudes et nos incertitudes peuvent être des certitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il s'agit de lâcher les certitudes et les incertitudes pour juste ne pas savoir. Souvent, on l'emploie aussi, je ne sais pas, mais le danger de je ne sais pas, c'est qu'on se place au contraire de je sais. C'est un peu comme, et Alan Watts encore se donne cet exemple, il dit c'est comme si quelqu'un fait opposer gauche et droite et il décide que le gauche c'est sinistre. Ça vient de ça. Hein.
Sinistre, c'est en italien.
Oui, oui, c'est ça. C'est sinistre, c'est mauvais, c'est le mal. Et le droite, c'est le droite. C'est super, c'est ce qu'il faut. Et moi-même, j'ai connu, et Alan Watts donne cet exemple, de, c'est comme si on décide dans la voiture qu'il ne faut pas tourner à gauche. Et donc, on tourne que à droite et on finit par aller en cercle dans le même endroit où on ne voulait pas tourner à gauche, si on tournait que à droite. Et malheureusement, quand j'étais adolescente, je connaissais un jeune homme qui, on ne savait pas, quand on est ado, on ne voit pas vraiment clairement les choses, mais il avait en fait des problèmes psychiatriques, mais il nous persuadait qu'il nous était... Il disait, la gauche, c'est sinistre. Et donc, en voiture... Il faisait tout un parcours pour ne pas tourner à gauche pour arriver dans un endroit. Il était aussi persuadé qu'il avait une cure pour le cancer et il cuisinait ça dans sa cuisine. C'est triste qu'il a fini, mais ça c'est l'extrême d'être dans cette limite psychiatrique. Nous aussi, c'est un peu psychiatrique quand on met les oppositions si farouchement et on décide que quelque chose est mauvais et quelque chose est bien. Mais d'une façon catégorique, les certitudes et les incertitudes. On finit par se tourner en cercle comme la personne que l'exemple qu'il donne Alan Watts. Et dès qu'on érige bien, on érige au même temps pas bien. Mal, disons. Dès qu'on érige certitude, on érige incertitude. C'est cette comment dire, on peut dire délusion, mais on peut dire aussi cette problématique que notre pratique, que le zen aborde, disons. Parce que c'est très très profond et all pervading. Je sais pas comment on dit ça en français, il y a un mot pour ça. Partout.
Oui. Englobe tout.
Oui, quelque chose comme ça. Enfin, ça englobe pas, c'est partout.
C'est partout.
C'est répondre partout. Ça répond partout. C'est ça. Alors, comment c'est dans le zen, il y a des gens qui disent que le. Par exemple, Masumi Roshi disait que on a ces deux dans notre lignage, parce que on incarne à la fois un lignée Rinzai et un lignée Soto, on a ces deux pratiques de ce qu'on appelle Shikantaza, c'est juste s'asseoir, qui est pur Soto, de l'école Soto. Et on a aussi ces pratiques des Korans qui viennent de notre lignée Rinzai. C'est très simpliste de diviser ces choses comme ça, mais juste pour notre conversation aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Et Masumi Roshi disait que le vrai Shikantaza ne pouvait commencer qu'à la fin de toute la pratique des Korans.
Ah, ok. Le Shikantaza, ça peut commencer au fin de la pratique des Korans.
Son point de vue, c'était que et ça ne veut pas dire que on était obligé de pratiquer les Korans. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Shikantaza, le juste s'asseoir, implique ne pas savoir aussi bien que la pratique des Korans. Parce que dès qu'on s'assoit et on sait quelque chose, ben, on n'est pas vraiment juste ici maintenant avec ce qui est. Et vous savez, comme j'avais déjà dit, ce que Bernie Glassman, la façon que lui, il présentait le Shikantaza, il disait, ce n'est pas juste s'asseoir. C'est juste s'asseoir. C'est vraiment, mais paf. Parce que apparemment, c'est shikan, ou shikan, c'est s'asseoir, ou un truc comme ça. Et le taza, c'est cette... Et si on est juste dans un « ok, bon, je vais m'asseoir », c'est pas ça. Mais si on est aussi « je vais m'asseoir », c'est pas ça non plus. Parce que dans les deux, on est fixé quelque part. Et donc dans cette « je vais s'asseoir », pour vraiment y être, il faut lâcher ce « et il faut... donner un peu de dynamisme à ce... Et c'est difficile à faire. C'est difficile à faire si on n'a pas quelque chose pour nous encadrer. Bon, la posture, c'est super, mais on peut se fixer dans cette posture. Les rituels, c'est super, mais on peut s'attacher à ces rituels aussi, et ce cadre-là. Et on peut aussi dire, oh, ben, c'est pas important, la posture. Faites comme vous voulez. Je sais qu'au début de ma pratique, quand j'avais commencé le zen, et j'assistais dans la maison qui est actuellement le centre zen d'Anna, qui à l'époque n'était pas, c'était la maison de mon mari, de sa famille, dans le grenier, qui est aujourd'hui le zendo, et qui était pas aussi bien, il y avait un plancher, mais c'était pas aussi bien fait comme aujourd'hui. Mon mari et les gens qui habitaient là invitaient d'autres maîtres de venir. Ils mettaient à disposition la maison pour différents maîtres. Il y avait un maître tibétain, un français qui était un maître tibétain, qui venait. Namgal, que Daniel connaît aussi, qui venait. Et donc, de temps en temps, j'assistais à ces enseignements. Et pour moi, c'était gênant parce que les gens, tout le monde se mettait où il voulait. Pas du tout. Moi, j'avais cette habitude de zendo, quoi. Et tout le monde se mettait comme il voulait. Il y avait pas, à l'époque, on n'avait pas des coussins et tout ça. Donc, tout le monde avait des coussins vaguement zafou, d'autres choses. Tout le monde était habillé comme il voulait. Il y avait carrément quelqu'un qui était allongé. Enfin. Et le maître parlait, racontait, je ne sais pas très bien, à l'époque je ne connaissais rien de rien, donc il parlait, donnait des longs discours. Et puis, après 2 heures, il y avait une pause. Mais il n'y avait pas de méditation. Je ne comprenais rien. Je disais, mais c'est quoi cette histoire? Et j'avais vraiment besoin du cadre. C'était mon affinité. J'avais besoin, des autres gens là, apparemment, ils n'avaient pas de problème avec ça. J'avais besoin de ce cadre, j'avais besoin de cette structure, j'avais besoin que quelqu'un me dise, ok, maintenant, on s'assoit. Avant le talk, on fait ceci, cela. Donc là, ce matin, j'étais un peu déroutée parce que normalement, on amène ça avant et puis on chante après. Mais comme elle et Lino et la personne qui l'amène, elle voulait chanter avant d'amener. Normalement, on sonne 3 fois, et puis, mais uniquement après que le maître a fait ça. Donc, j'ai signalé à Claudia. Donc, je fais ça et elle a fait tchik-tung. Donc, elle n'a pas fait 3 fois. Donc, si je suis attachée à comment ça doit être, alors là, je suis paumée. Je suis bloquée dans mes certitudes. Parce qu'il n'y a pas de certitude. On s'en fout d'une certaine façon, ok? C'est vraiment, si elle amène ça avant de chanter ou si elle sonne 3 fois, on s'en fout. Vraiment. En même temps, c'est important de la rigueur, le cadre, la structure, la discipline. C'est très important. C'est ça, c'est quoi?
Je pensais que c'était pendant le chant qu'il fallait l'apporter.
Non.
En plus.
Non.
C'est avant. On l'enlève pendant le chant.
On l'enlève quand on commence le deuxième.
Le deuxième verset du
chant. C'est ça. Mais pour tout dire, normalement, il y a un jisha qui amène l'eau et un autre qui amène le livret.
Ah ouais.
Et il y a une table pour le livre et c'est enrobé dans un tissu spécial et on le déplie. Donc, on est loin de l'orthodoxie. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est juste, on se met d'accord sur quelque chose et on garde cette discipline et cette rigueur. Alors, c'est pour ça que cette juste s'asseoir est très difficile. Très, très difficile. Si on n'a pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et dans l'optique de Maizumi Roshi, c'était que, après qu'on a fait tous ces korans, tout cet cursus, des centaines de korans, etc., alors là, on pouvait vraiment être dans la stabilité et le lâcher prise, et on pouvait accéder à ça. Mais il disait ça parce que quand Genpo Roshi, qui est mon grand-père dans cette lignée, commençait à venir en Europe, il y avait beaucoup, beaucoup d'élèves, Pays-Bas, Pologne, Angleterre, partout. Et à un moment, il avait invité Maizumi Roshi à venir. Ok, Maizumi Roshi vient, et chaque fois que quelqu'un venait en Dokusan avec Mayumi Hiroshi, il disait, ma pratique, c'est Shikantaza. Et Mayumi Hiroshi, mais c'est pas possible. Comment tous ces gens qui pratiquent depuis très peu de temps disent qu'ils pratiquent le Shikantaza? C'était un concept, si tu veux, pour ces gens-là. Et donc, il avait vraiment dit à Genpo, mais ça va pas du tout. Il ne faut pas dire à tes élèves qu'ils pratiquent le Shikantaza. Il faut les apprendre, qu'ils apprennent ce qu'ils savent, s'asseoir, les guider dans cette juste s'asseoir, de respiration, d'autres choses, mais il ne faut pas leur donner ce concept de Shikantaza. Ils ne sont pas encore là pour aborder ce concept d'une façon incarnée. Non, c'est ça l'explication. La façon que Genpo le raconte, c'était plutôt une engueulade. Et Genpo, probablement, a dit « ok », et puis faisait qu'à sa tête. Mais on ne sait pas la suite de l'histoire. Mais, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pratiquer les Korans. C'est pas ça. Et en fait, j'avais regardé mon livre. Que j'avais, je ne voulais pas oublier quelque chose. Donc, si on est vraiment. Et donc, les gens, quand ils commencent à pratiquer avec moi, et s'ils expriment le désir de travailler avec les Korans, et j'estime que c'est approprié pour eux, il faut que je vérifie qu'ils ont une certaine stabilité dans leur assise. Pour les aborder, les Korans. Et parce qu'on dit que quand on a cette... comment on définit une stabilité? C'est comme quand l'eau est bouillie et pleine de sable. Je donne cet exemple d'un bocal avec de l'eau, avec de terre dedans. Mm-hmm. Si on la secoue comme ça, ça va être brouillard. C'est pas clair, l'eau. Mais si on la dépose, donc ça c'est l'équivalent de s'asseoir, zazen, on le dépose, on ne bouge pas, l'eau devient claire. Et quand l'eau devient claire, c'est propice pour jeter un caillou. C'est ça le courant, on jette un caillou là-dedans. Et on est assez stable pour juste observer ce qui va arriver avec ce caillou qu'on a jeté là-dedans. Bon. Pour ceux qui pratiquent les Korans, vous ne vous reconnaissez peut-être pas dans ça. Parce que tout de suite, le caillou est jeté dedans et c'est agité autour. Normal. Mais avant cette agitation, le caillou était juste tchic, jeté dedans. L'eau était claire et tchic, on a mis le caillou. Et ce que le Koran... Ça a l'air un paradoxe de nouveau, c'est que le Koran vise à que cette eau claire qui est tranquille, still, cette stillness, peut être incarnée dans la vie de tous les jours. Le Koran vise à cultiver ça. Donc, si on peut dire, vise à quelque chose. Mais c'est, l'idée, c'est que on est confronté à cette énigme, entre guillemets, cet inconnu, quelqu'un frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un frappe à la porte. On ne sait pas. C'est évident que quelqu'un sait très bien, c'est le porte en bas. On ne sait pas ce que c'est, donc quelqu'un le plus proche de la porte va descendre voir. C'est clair. Mais quand on est confronté à un Koran qui, on considère, n'est pas si clair, on a les choses du genre quel est ton visage avant que tes parents sont nés. C'est pas si net que quelqu'un frappe à la porte. C'est aussi simple, mais ça nous confond, c'est confus. parce que ça n'a pas de sens selon nos certitudes de chronologie. Mes parents sont nés avant moi, mon visage c'est ceci ou cela, mes parents sont ceci ou cela, tout ça. Et donc, c'est pour ça que quand si on reçoit un courant comme ça, c'est pas si clair qu'il faut juste s'élever et répondre à la porte. C'est pas si évident que ça. Et donc, c'est là l'importance de cet esprit qui est tranquille et qui n'est pas accroché à des certitudes et qui n'est pas accroché à les schémas intellectuels, les projections, les tendances, les tendances d'accrocher à quelque chose, de saisir quelque chose et de rejeter l'autre chose. A priori, on est entraîné dans cette méditation à faire ça. Ce qui est un peu les corons nous entraînent à faire ça aussi. Donc, les deux, juste s'asseoir et pratiquer les corons, nous entraînent à lâcher prise, s'ouvrir, ne pas savoir, porter témoignage, et puis agir à partir de ça. Parce que, comme j'ai dit, on apprend avec les corons à répondre à toute situation qui se prononce de la vie de tous les jours. Que ce soit ce qui nous en ressent, ou ce que c'est la situation auquel on est confronté, parce qu'on voit ça, les situations, comme une confrontation. C'est juste une façon de dire quand je dis ça. Les situations qu'on vit, disons, les instants de vie, comme on dit, c'est un entraînement, disons, de répondre à ça. Et donc, ce schéma de Bernie Glassman de ne pas savoir, de porter témoignage, c'est la pratique des corons et ça nous amène à une réponse appropriée ou compassionnée, parce que l'action de cette sagesse qu'on développe ou auquel on a aperçu, cette sagesse de l'unité qui transcende les dualités, de les choses telles qu'elles sont, en anglais on dit suchness, je sais pas comment. C'est un peu ce mot un peu anxiété ou un truc comme ça en français qui est un peu bizarre. Mais... Tu connais un autre mot pour ça, Daniel?
Non,
oui, c'est ça.
C'est quoi le mot?
Anxiété.
Anxiété. C'est ainsi.
Anxiété.
Anxiété.
Non.
On n'entend pas. Such, c'est ainsi. Est-ce que such, c'est ainsi? Et donc, quand on a cet aperçu de ça, on voit les choses telles qu'elles sont. Et en voyant ça, on voit l'unité et la diversité, parce qu'on voit véritablement la pluie entière, entièrement avec dans son fluidité. C'est ça qui est formidable en anglais, on dit son it's rainness, on peut ajouter N-E-S-S à la fin des mots pour cette qualité, quoi.
Licence.
Okay. Quoi?
Licence.
C'est quelque chose comme ça. Attends. C'était Ségolène Royal qui avait inventé ce mot bravitude, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tout le monde rigolait, mais ça venait de cette... chercher un mot pour cette attitude, cette qualité d'être brave, ou un truc comme ça. Je ne me souviens pas le contexte, mais je sais que...
Il y a un mot,
mais bon, elle avait mis ça. Et évidemment, on lui est tourné en dérision, non plus finir. En partie parce que c'est une femme, mais parce que si c'était un homme, on n'aurait pas tourné en dérision de la même façon.
Il y a déjà un autre mot, donc elle n'a juste pas trouvé le vrai mot.
Donc, en même temps, c'est vrai que moi, quand j'ai appris l'anglais, on m'a appris que l'anglais, en fait, était une langue vivante parce que, justement, il y avait cette capacité de créer de nouveaux mots.
Oui.
Et donc, si elle a envie de dire un mot nouveau pour exprimer ce qu'elle ressent à ce moment-là...
Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas ?
Parce que c'est français.
Voilà.
Tout à fait. Et s'il y a des mots nouveaux en français, ils sont anglais.
Qu'est-ce que je disais ? Oui, quand on a cet aperçu de, non pas la bravitude, mais la suchness, l'anxiété des choses, et cette unité et diversité de toutes choses, l'action qui est née de cette réalisation est forcément compassionnée. C'est le on dit que la compassion, c'est le fonctionnement de la sagesse. Parce qu'on a vu l'unité, on a vu la diversité, on a vu les choses telles qu'elles sont, et évidemment, on va agir avec compassion. La voie du moins dommage, entre guillemets, moins...
dommageable.
Pardon ?
Dommageable ?
Oui, c'est cette notion de « the least harm ». Donc, c'est ça. Parce que, évidemment... il y aura toujours, c'est le monde relatif, donc il y aura toujours harm. Disons que juste en marchant, on fait mal à des petits organismes qu'on ne voit même pas. Juste en mangeant, même si on mange des plantes, on a tué quelque chose pour manger. Donc, on va où il y a le moins de ça. Et quand on a cet aperçu de la sagesse, de cette unité, évidemment, on va agir de cet endroit-là. Et c'est ça l'action qui vient de ne pas savoir et de porter témoignage. Et donc, les koans nous aident à incarner ça dans notre vie de tous les jours, de approfondir cet aperçu avec chaque courant, un petit aperçu, et à travers tous ces courants, on l'approfondit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin qui fait ça. Toutes les écoles bouddhistes, toutes les traditions spirituelles, quoi qu'il en soit, enfin, ils viennent tous à cette notion d'unité et d'amour. Tous. Bien sûr que c'est brouillé, c'est perdu dans les doctrines, parce que dès que ça vient des certitudes et des incertitudes, alors là, ce n'est plus. Donc ce n'est pas juste le seul voie. Bien qu'un plongé dans l'inconnu, d'une certaine façon, ça dépend comment on le voit, mais est inévitable. Donc, toutes les certitudes vont toujours, notre moment actuel dans le monde, c'est une pandémie de certitudes, en fait. Des certitudes partout, et ça cause tellement de mal. Ça fait tellement de... souffrance, des certitudes. Donc, se plonger dans cette ne pas savoir et dans l'inconnu, c'est un bon pas pour tout le monde. Si on pratique des cours, non, si on fait la méditation, non, si on est chrétien, musulman, juif, je ne sais pas. Quelqu'un l'autre jour m'a parlé des mysticismes et des femmes mystiques avec quelqu'un l'autre jour. Et elle m'a parlé d'un... Elle est d'origine... syrienne, je crois. Et elle a cité un mystique langue arabe. Et je n'ai pas tout saisi, et j'ai fallu que je parte, donc j'ai cherché un peu. Et c'est Rabia. Je ne sais pas si vous avez entendu Rabia. Le premier, c'est une femme, première, tout au début, les soufis. Donc, je crois que c'est une centaine d'années après Mohammed. Mais c'est magnifique. Et on l'a traité, comme souvent, sorcière, bizarre, prostituée, tout genre de choses. Mais d'autres le reconnaissaient entièrement. Et la postérité l'a gardé. Donc on ne l'avait pas complètement éliminé. La femme qui me racontait ça me dit, je ne sais pas si elle est traduite en français. Mais si. Et c'est magnifique. C'est... Bon, elle va avoir une parole qui peut nous rappeler Allah ou les choses comme ça, mais ce n'est pas ça de viser. De viser, c'est vraiment le mystique qui est inconnu. Ne pas savoir quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est dans toutes les traditions. Et même les scientifiques, pareil. C'est que quand ils commencent avec le ne pas savoir. Einstein disait qu'il passait des années à ne pas savoir, et faire des expériences à ne pas savoir, à tester des choses. Ils partent d'une hypothèse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et ils plongent dans cet inconnu. Les artistes, pareil. Donc, ce n'est pas juste... Les gens qui pratiquent les Corans. C'est vraiment, il ne faut pas limiter à ça. Est-ce que c'était le porte? C'était quoi?
Métallique, je sens.
C'est
métallique, un tonneau, un truc, je ne sais pas. Okay.
C'était dur. Cette fois, ou c'était peut-être la chaise qui craquait. Je ne sais pas. Oui, c'est ça aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est que la beauté de cette... la compassion étant l'action née de la sagesse, c'est en fait cette sagesse de l'unité, de l'absolu, disons, ou ce qu'on appelle parfois le vide, et mise en service pour le bien-être de tous dans le monde relatif, disons. C'est la voie du bodhisattva. Parce qu'on ne peut pas vivre cette sagesse ailleurs qu'ici maintenant. Et on a souvent l'image du bodhisattva qui va venir se plonger dans le boue. On a ce chant à la fin de l'Oryoki, d'ailleurs, qui « Puissions-nous demeurer et non pas rester. » C'est marqué « rester » là ?
Je pense.
Okay. C'est « demeurer, demeurer avec pureté. »
Je dis « rester ».
Oui, donc je me dis, non, peut-être que c'est moi qui est resté. Okay. Okay. Puissions-nous demeurer avec, dans l'eau boueuse, donc dans ce monde de boue, boueux, ce monde.
L'âme.
Ok. Avec pureté, comme le lotus. Le lotus devient ce symbole qui fleurit dans l'eau boueuse. Et nous aussi. On ne peut pas fleurir ailleurs. C'est vraiment... dans l'absolu, il n'y a pas de fleurs. Si on s'accroche à une notion de vide, ce qui n'est pas rien. Hein. Il n'y a pas de fleurs. Et justement, nous, les wildflowers, c'est des fleurs qui ne sont même pas cultivées. Ils fleurissent partout, partout, partout. Partout à travers le monde. Dans toutes les oboeux, dans tous les déserts, dans tout, 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 tout. Les fleurs sauvages s'épanouissent. C'est ça la bodhisattva. C'est ça nous tous, en fait. On ne peut pas s'épanouir ailleurs. On aimerait bien que ce soit ailleurs. On aimerait bien qu'il y ait un trône d'éveil qui est là-bas, et haut, et parfait. Mais en fait, c'est là. C'est là le trône de l'éveil. C'est ça la terre d'éveil, disons. La terre d'éveil, c'est là, ici, maintenant. Là où on est. Ça ne peut pas être ailleurs. Alors, les koans, avec toute la diversité des koans, les situations, les mots, tout ça, c'est une variété inouïe, nous entraîne à juste se mettre dans chaque situation et de répondre à chaque situation en répondant, en étant entier, étant cette situation, étant ce qui est mis en question. La situation, l'homme qui frappe à la porte, Marjolaine incarnait entièrement la réponse. Elle va répondre à la porte. Nous tous, on répondait à la situation. Là où nous, on était en réponse à ça, c'était juste s'asseoir. On entend les skis à l'électricité. Adrien, comme il est juste là, il répond comme ça. Marjolaine aussi, elle répond comme ça. Moi, je n'avais rien à côté de moi pour vérifier, mais juste avant de monter, il y avait de l'électricité, je sais, parce que j'ai éteint les lumières dans ma chambre.
Il y a ceux qui n'entendent rien, qui disent « Qu'est-ce qu'il a dit ?»
Quoi ?
Ceux qui n'entendaient pas, « Qu'est-ce qu'il a dit ?»
Ah oui, oui, donc ok, donc on n'entendait pas. Et, mais tu avais attendu la frappe à la porte.
Ah oui.
Oui.
Je trouve
que c'était effrayant. Tu trouvais ça effrayant. Donc, oui. Tu vois les différentes réactions qu'on peut voir. D'entendre la frappe ou qu'il n'y avait pas d'électricité.
Ouais, c'est marrant parce que je réalise ça. Enfin, mais je l'ai réalisé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comme on était plusieurs. Moi c'est vraiment tout signe de problème.
La peur de l'inconnu, hein.
Ouais, c'est peur. C'est
menace, peur. Oui, il y avait quelque chose de menaçant.
Ouais. Ouais.
Mais en plus, quand c'est inconnu, c'est menaçant.
En fait, comme il y avait des filles qui hurlaient juste avant, pendant le
combien
il y avait ces filles qui
c'était
hurlaient.
Après.
C'était après, oui.
C'était après.
Oui. Parce que lui, c'était un même moment, on l'avait pas
sonné. Parce que moi, je me suis demandé si c'était... Ah oui, t'as raison, c'était avant. Je me suis demandé si c'était ça qui m'avait influencé. Alors même, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai trouvé ça effrayant, en fait. Il y avait un truc de... En fait, j'ai cru que c'était Joa qui avait... En fait, j'ai pensé à Joa et je me suis inquiétée pour Joa. J'ai cru que Joa avait un problème, qu'il était enfermé dans les toilettes ou qu'il avait fait un malaise.
Donc, vous voyez ce qui se passe ?
Oui, c'est...
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui.
Mais j'ai trouvé très courageux, hommes. Est-ce qu'ils ont eu le courage de descendre et ouvrir la porte ? On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Mais tu sais, moi, je ne suis pas une citadine.
Quoi ?
Moi, je vis dans un environnement où on n'a pas peur.
C'est vrai. C'est
sûr. Moi, je dors sans fermer la porte à clé.
Oui, pareil.
Et donc, oui. Si ouais. On se fixe dans cette posture aussi, ouais. On s'ouvre à potentiel danger. Pas dans les endroits où vous vivez. Mais si vous êtes dans une autre situation et vous fermez pas la porte, ça peut être dangereux. Et si nous, on est en vie, en ville, et donc, il faut fermer les portes tout le temps.
Mais en même temps, je ferme pas la porte du train.
Voilà, ok. Donc, c'est, vous voyez, c'est, il faut, les commandes, ça nous entraîne à être juste être conscient de awareness de la situation et répondre en fonction. Awareness, c'est difficile aussi un mot en français. C'est de porter témoignage à la situation dans laquelle on est. C'est pas comme dans un village dans le Drôme. C'est pas comme en plein milieu de Paris. C'est pas comme, enfin, le train, c'est pas comme ma chambre chez moi. Parce qu'elle a eu un problème dans un train de nuit. Où elle n'a pas fermé le cabine. Il s'agit d'être tellement souple qu'on peut répondre à chaque chose qui arrive, chaque instant.
Mais qu'est-ce qu'on fait de la peur alors?
On répond à la peur aussi avec ne pas savoir ou, comme j'avais dit hier, de cette enquête, qu'est-ce que c'est cette peur? De ne pas avoir une certitude, parce que tout de suite, peur, et donc on se projette. Mmh. Danger, personne n'a besoin de secours, c'est un voleur, tout de suite, de peur. Donc on regarde, qu'est-ce que c'est cette peur? D'où vient cette peur? De quoi j'ai peur? Qui a peur?
Marjolaine, elle aurait pu descendre avec un gros gourdin.
Oui, mais ce sera. Est-ce que ça aurait été approprié pour la situation?
Après le cambriolage, je le fais de temps en temps. Enfin, je le faisais avant. J'amène le marteau dans la chambre, je le mets en lit en disant si jamais je rencontrais quelqu'un dans l'appart, je suis capable de frapper avec un marteau. Mais...
Mais bon,
mais
on peut dire ok, dans certaines situations, peut-être, je sais pas, je ne sais pas. L'autre jour, mon voisin Yuri est venu, faisait du jardinage, et non, il m'avait envoyé un message disant on fait du jardinage, est-ce que on peut emprunter votre comment on appelle ça, chainsaw,
tronçonneuse.
Votre tronçonneuse. Et donc, moi, j'étais pas là à la maison, mais j'ai dit, bien sûr, je crois que c'est dans la petite cabane. Okay. Et puis, il m'a dit, en fait, ça, je vais venir demain. Okay. Il est venu, il a cherché, là, et puis je l'ai vu le lendemain, et j'ai dit, alors, tu l'as pris? Il dit, oui, mais finalement, on n'avait pas besoin de ça, donc j'ai pris le axe, comme on dit. Ok, donc lui, il était parti d'un truc, il faut les tronçonneuses, et puis finalement, il s'est rendu compte que non. Donc il est allé chercher la hache. Il avait une certitude qu'il fallait les tronçonneuses, mais en fait, il fallait la hache. Il a laissé tomber, il n'a pas insisté pour faire couper je ne sais pas quoi avec les tronçonneuses. Il dit, ah non, c'est pas ça qu'il faut, il faut la hache. T'es assez souple pour lâcher ça, puis prendre d'autres. Comme Bernie Glassman donne cet exemple, si on est tellement plein de l'incertitude et qu'on va amener qu'un marteau dans notre sac, et chaque situation qu'on trouve, on va sortir le marteau. Quand en fait, parfois, il faut un tournevis, pas un marteau. Parfois, il faut une plume. Parfois, il faut une tronçonneuse, parfois, il faut une hache. Donc, il vaut mieux. Est-ce qu'il faut trimballer le monde entier dans notre sac? D'une certaine façon, oui, mais on est tout ça. Et quand on s'ouvre sans les certitudes, on a tout ce qu'il faut pour répondre. Avec les ingrédients. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non. Pardon, parce que ça me fait penser à une situation que j'ai vécue. Et où j'ai... Et voilà, ça correspond exactement. Du coup, j'ai fait comme ça. Yes.
Okay. Voilà. Donc, ce n'est pas, comme on dit en anglais, this is not rocket science. Ça veut dire que ce n'est pas la science...
Mais il faut... Non, la science, c'est compliqué, quoi. C'est pas compliqué.
This is not astrophysique. In Portuguese.
C'est pas compliqué. mais c'est pas facile de...
Rocket science.
En fait...
Non, vas-y, je peux. Oui, bien sûr.
En fait, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est... des fois... ça me fait penser à deux choses. La première, effectivement, mais c'est pas facile aussi, cette souplesse qu'on peut avoir, enfin cette souplesse qui, moi, je pense, est une qualité, mais des fois c'est pas facile d'imposer cette souplesse aux autres parce qu'ils considèrent que cette souplesse n'est pas forcément une qualité. Moi, je vais prendre un exemple très très simple, c'est dans mon travail. En fait, je suis là pour réaliser des documentaires. Donc, je viens de réaliser un documentaire que j'ai proposé. Et puis, j'ai eu un deuxième projet. On me demande de réaliser un film sur Pierre Boulez, je ne sais pas de Pierre, ouais. Sur Boulez, musicien très connu mais un peu pointu. J'ai commencé à réaliser le film, et quand j'ai eu cette matière, je me suis rendu compte que faire un documentaire pour 3 personnes qui vont le regarder, ça va me prendre 6 mois. C'est 6 mois de montage, parce que c'est très très compliqué pour moi qui ne suis pas cette connaissance. Et donc j'ai dit qu'il fallait faire une plateforme interactive avec tout ce que j'avais fait, que j'allais monter, et ça allait me prendre autant de temps et autant de... Eh bien, c'était très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Non, tu abandonnes déjà le documentaire !» Mais non, je sais que pour cet objet-là, il faut faire une plateforme interactive, il ne faut pas faire un documentaire, même si on m'a engagée pour faire des documentaires. Et c'était marrant parce que j'avais cette idée précise qu'il fallait que je fasse ça, et aujourd'hui je suis en train de faire ça, et tout le monde trouve ça génial. Mais pendant 3 mois, je me suis fait attaquer parce que du coup je ne faisais pas ce que je devais faire.
Est-ce qu'ils attendaient que tu fasses?
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient tous... Non, on t'a engagé pour faire du documentaire, tu n'as pas, dès le deuxième projet, changé ton idée. Et maintenant, alors maintenant, j'entends les gens qui disent « Nous avons eu une idée de faire une plateforme interactive. » Je me dis « Tiens, c'est intéressant. » Avec fierté, ça devient un projet de recherche, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai eu du mal à... Qu'est-ce que j'ai eu du mal avec ce projet? J'ai dû me fâcher et taper les 2 points sur la table pour dire « Je n'abandonne rien du tout, c'est ça la meilleure manière de mettre en forme ce projet. » Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, c'est que ça m'arrive souvent que cette souplesse... Alors, parce que cette souplesse aussi, il faut se méfier, parce que des fois, c'est aussi les gens qui ont des certitudes. Quand on est souple, c'est pas facile des fois de faire face aux gens qui ont des certitudes. Justement. Parce que du coup, ils s'infiltrent. C'est comme tout à l'heure ce que tu disais. Ils se glissent. Enfin, moi, des fois, quand je suis très souple, ben, les gens avec leurs certitudes, ils se glissent et ils m'enferment. Ou ils me piègent. Voilà, je pense à ça.
Comment tu es piégée? Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
Eh ben, par exemple, là, si j'avais vraiment, il fallait beaucoup de... Je me défends pas toujours, mais là, je me suis vraiment défendue. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu dire oh, « Ils ont raison, en fait, je suis en train d'abandonner, c'est trop compliqué pour moi, je... » Non, j'ai dit « Je ne changerai pas d'avis. Je sais que mon idée est bonne, je ne changerai pas d'avis. » Mais il faut avoir beaucoup de force pour faire ça. Quand on a 10 personnes en face qui disent « Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. » Enfin, je sais pas pourquoi j'ai eu cette force. Je l'ai pas toujours, cette force. Là, je l'ai eue, mais...
Cette force, disons, vient de l'expérience de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, tu avais fait le tour du sujet. Oui, documentaire, pas documentaire. Tu dis que tu as fait des recherches, la situation, 3 personnes vont le regarder. J'imagine qu'il y a plus que 3 personnes à le regarder. Hein, mais bon, peu importe.
Aujourd'hui, il va y avoir plein de gens qui vont pouvoir le regarder.
Donc, tu avais fait le tour de la question un peu comme avec un Coran. Au début, j'imagine que tu ne disais pas « Non, il ne faut pas faire un documentaire. »
Non, justement, je disais non, mais quand même, ce serait bien d'envisager, jusqu'au jour où j'ai vu que je me disais, ils vont comprendre tout seuls. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'ils n'allaient pas y venir tout seuls. Donc j'ai dû faire comme ça.
Et ta position était, c'était approprié que toi, tu faisais confiance à ce que toi, tu sentais. Et on fait le tour de la question, et en voyant ce qui était approprié, selon ton expérience, et tu étais dans la position où c'était approprié pour toi de dire, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Dans une autre situation où tu n'étais pas le chef, le boss, où quelqu'un d'autre impose son documentaire, tu pouvais toujours avoir cette confiance en ce que toi tu vois. tu peux apposer, tu peux dire, voilà, moi je le vois comme ça, mais tu n'es pas cette position, la situation différente, si tu veux, tu vois. Mais tout vient de cette confiance qui, on peut pas le... C'est pas intellectuel, cette confiance. Quand on a l'expérience directe de quelque chose, tu ressens, tu sens. Et souvent, dans l'art, les artistes, les photographes, cinéastes, écrivains, musiciens, etc., on sent. Et c'est la même chose que dans la pratique, que quand on voit quelque chose dans le corps, on le sent, on sait ça, c'est ça. Et, mais c'est la même chose que de boire cette verre d'eau, et puis après, quelqu'un me dit, ah ben non, t'as bu du Mouton Rothschild 95-9. Non, je sais que j'ai pas vu ça. J'ai bu de l'eau. Je sais. C'est mon expérience. Mais c'est inébranlable, ça. On ne peut pas me dire autrement. C'est ça. Et c'est là, la beauté des Corans, c'est que c'est expérientiel. On a l'expérience et on a tellement eu l'expérience, on a tellement intégré ce que c'est expérimenter et faire confiance dans notre expérience que bah, on peut facilement plus, on peut plus facilement naviguer dans les situations inattendues. Bon, cet exemple de l'homme qui frappe à la porte, c'est basique. Et on a vu tout ce qui se passait, notre réaction, qu'est-ce que c'était? On se projetait dans différentes choses, danger, peur, besoin d'aide.
Et je crois aussi, tu sais, parce qu'on on a parlé beaucoup de cette histoire de danse, justement, là, dernièrement, mais c'est aussi parce que la danse, cette histoire de bal, où du coup, on change de partenaire, on ne peut plus choisir. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans cette situation de bal folklorique, c'est que tout à coup, c'est pas toi qui va... C'est tiens, je veux danser avec elle, et je viens et j'invite cette fille, et je vais danser avec cette fille. Non, c'est je ne choisis pas avec qui je vais danser. Mais c'est ça qui est magnifique. Parce que du coup, bien sûr que la bonne danseuse ou le bon danseur, bien sûr qu'il n'a jamais les traits de celui que tu cherches. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça l'expérience. C'est que bien sûr, celui avec qui tu expérimentes un moment incroyable, en l'occurrence, c'est jamais celui que tu vas choisir. Parce que t'es certain, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends, c'est que mes certitudes, elles m'enferment, elles m'emmènent vers des gens, et que finalement, souvent, c'est des gens que j'aurais pas choisi qui me surprennent, en fait. Je crois que c'est ça qui m'a surtout complètement bouleversée dans cette pratique.
Mais chaque personne avec qui tu danses, si on est vraiment ouverte, te surprend.
Oui.
Chaque. Non.
Non.
Ben,
vous avez
c'est
certaines.
Bien, quand même. Non, je veux dire, c'est...
Tant qu'on est toujours dans la dualité, alors. Il y en a qui sont bien et là, moins bien.
Dans l'expérience, quand je vois un verre d'eau fraîche et une eau un peu moins fraîche.
Oui, ça
et donc, le vrai, entre guillemets, liberté, c'est de ne même pas avoir ça. C'est ouais. Que...
Peut-être faire de la danse contact. Parce que voilà, on aide les yeux fermés, on est dans le mouvement et on choisit personne.
Non, mais là, on choisit personne.
Non, mais je vais dire, on voit pas.
Mais on voit. Là, quand je parle d'expérience, c'est pas une image, c'est pas quelque chose que je vois avec mes yeux. C'est quelque chose de la danse. Mais c'est juste parce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui sait danser et quelqu'un qui sait pas danser. Ah,
mais ça, c'est intéressant
aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à
parce
fait,
que qu'est-ce que c'est danser?
Oui,
non, c'est I'm having dances now. And sometimes I have the bad dancers, and I learned how to give yourself. Give yourself to the bad dancer. So I go out of rhythm, but I completely. It's really. It's liberating, and I do not get annoyed. Okay, he really dances bad, but it's okay. He's having fun, and I'm doing as he knows to lead me.
Déjà cette idée que he's bad.
It's out of rhythm.
Yeah, but I, you know, Amy, there is like someone with out of rhythm.
This is tough.
It's tough. It's. But you can give yourself to.
I'm chanteur d'inno. Yeah. Il y a des chanteurs inno qui.
And try not to lead to accept she's a bad leader.
Parce que par exemple, ben moi carrément, il y en avait un, il me mettait en danger. Il me faisait tourner trop vite. Mais je peux pas. Là, il y a un moment donné, tu vois, c'était trop vite. Et je me suis dit, il va me tuer. Même ça.
J'entends ce que vous dites, hein. J'entends et je joue un peu de l'avocat du diable. Parce que vous voyez où ça nous amène. Si on juge.
Ça commence comme ça et ça finit mal.
Oui, c'est ça. Et puis on va exclure les gens qui dansent pas bien. Déjà, il y a une hiérarchie, ça c'est vraiment pas bien du tout, et ça c'est extraordinaire. Et donc, on voit où ça nous amène.
Ouais, je trouve ça très intéressant comme exemple, parce que je suis dans un cours de danse africaine cette année, où je suis la pire, je pense, vraiment. D'abord, elles se connaissent depuis des années, elles sont très à l'aise et tout ça. Et récemment, j'ai découvert qu'il y a une nana qui est pire que moi. Oui, mais c'est même pas la Corée que je connais pas, je connais même pas les mouvements. Et ça m'a attiré, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a. Et à un moment donné, dans ce qu'on est en train d'apprendre, il faut choisir un partenaire et tourner autour. Et je, évidemment, enfin sans que je le fasse exprès, je suis tombée sur elle. Et je me suis dit, bon, comment on va faire maintenant ? Enfin, j'étais tellement contente que ce truc se vive. Parce que dans ma tête, je me disais, j'ai déjà pratiqué ça dans d'autres circonstances. Vas-y, va vers elle, Debbie. Au lieu de dire, oh putain, j'espère que c'est pas elle, pas celle-là. Va vers elle et je tombe sur elle. Et on a passé un moment, c'était nul, nul, mais on était deux nuls en train d'essayer ensemble. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment très sympa dans ce truc.
Je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on cherche, parce que c'est vrai que dans la danse, je reviens au moins dans le tango, il y a quand même des moments où c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus plaisant, et d'autres moins plaisants. Mm-hmm. Mais après, est-ce que je veux juste vivre cette expérience-là? Ou est-ce que je veux vivre aussi justement le côté juste de danser et de découvrir? Mais voilà, en fait, c'est un choix. Enfin, et parfois, il y a et le plaisir et la découverte. Et puis parfois, il n'y a pas le plaisir, mais il y a la découverte quand même. Enfin, il y a toujours quelque chose à aller vivre de toute façon. Mm-hmm. Mais voilà, c'est ce qui est un peu les...
Dans chaque instant
ça,
de la
dans
vie.
Dans chaque instant c'est de la vie, voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est pas une histoire dans le danse.
Hein. Sur, moi, je veux que du plaisir là, et pourquoi pas. Ce soir, je veux que danser et me faire plaisir et pas découvrir. Et c'est OK, c'est comme ça. Et puis parfois, juste, je vais être dans la découverte, quoi qu'il se passe. Enfin, en fait, d'être libre aussi de pouvoir... Enfin, moi, j'ai aussi envie d'être libre de vouloir quelque chose et pas autre chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment la... Voilà, la liberté, peut-être aussi, cette liberté de pouvoir être figé sur quelque chose.
Oh, on est parfaitement libre d'être figé. Hein. Personne ne te dit que tu ne peux pas être figé.
Oui, c'est ça. Pas de
alors
ce
là, oui, c'est
de,
sûr.
De devoir être tout le temps figé. Dans l'ouverture. Oui,
c'est sûr. Dire, et en fait, on est plus facilement figé. Enfin, on est facilement figé. Hein. Et ça, c'est d'être cette... état d'être figé qui génère nos problèmes, nos difficultés. Parce que rien ne peut être figé. Et donc, si on a des idées qu'on veut toujours des bonnes personnes à danser, ça va être difficile. Quand on n'a pas la bonne personne, qu'on n'a pas la bonne... Bon, je ne sais pas pourquoi on a bifurqué dans ce truc de danse, mais... Parce que, apparemment, beaucoup de gens ont une expérience de danse. Hein. C'est étonnant.
On veut réussir.
Quoi ?
On veut réussir en
ça aussi.
Et en réussite, il y a plein de...
Ça aussi.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est la danse contact, Isabelle.
Danse contact improvisation, c'est de l'improvisation.
Mais vous avez les yeux fermés ?
Bah, en tout cas, moi, je fais les yeux fermés, on peut regarder mais, les yeux ouverts aussi. Mais je veux dire, on ne choisit pas, on est dans le bain, en fait, on ne choisit pas un partenaire de danse.
C'est ce que la petite Sabine Adana faisait. Ouais. Tu connais la petite Sabine. Hein.
Ah oui, oui.
Elle faisait ça.
Mais justement, dans le bal, il y a toujours quelqu'un qui se bande les yeux. Il y a toujours un gars au bord qui s'est bandé les yeux et qui attend. Je ne sais pas ce qu'il attend d'ailleurs. Que quelqu'un vienne l'inviter. Ouais.
Quand on trouve un partenaire ou une partenaire qui danse moins bien, et ben moi je me dis tiens, c'est l'occasion de lui apprendre et j'ai le plaisir d'apprendre à l'autre.
Voilà. Voilà, c'est une autre possibilité.
Voilà. Donc c'est l'occasion, donc c'est pas du temps perdu et c'est le plaisir aussi de pouvoir apprendre à l'autre. Enfin, moi on m'a appris dans le passé, donc maintenant j'ai l'occasion de redonner ce qu'on m'a appris.
Et ça, cette façon d'aborder les choses, c'est de reconnaître les différences et l'aborder de la partie absolue, de l'unité. Donc, il n'est pas pire, il n'est pas bien ou mal, c'est différent. Et donc, je vais me servir de mes capacités, qualités, ce que j'ai appris, et je vais partager ça avec l'autre. C'est ça le bodhisattva, la danse sur le bodhisattva, effectivement.
But I also think we can have that when I love that, of course, when you have a good dancer that you can learn. It's really. But you can also learn from a bad dancer.
Yeah.
It's not so good, but there's something pleasurable in the découvrance if you are.
Mais plutôt que good and bad, est-ce qu'on peut dire différent?
Différent.
Différent.
Oui. Une personne with another rhythm.
Dans un cours, il y a des bons élèves et des mauvais élèves.
Bah, c'est ce qu'on nous dit.
Il y a deux notions là-dedans, c'est-à-dire la notion de good and bad. En fait, on est nous-mêmes, je dirais, les dindons de la farce, parce qu'en fait, on n'accepte pas l'expérience.
Ah oui.
Ouais. On est là à dire selon des critères qui nous sont extérieurs. Mm-hmm. Parce que si, sinon, ben, on apprécie. Mais c'est vrai que des fois, on peut être gêné par ce que fait l'autre dans la danse. Et là, effectivement, c'est faire appel aussi à d'autres ressources. Mm-hmm. C'est ouvrir la porte. Et moi, je sais quand j'ai fait qu'une retraite au Conim, ça m'a vraiment marqué. Et à un moment, on a eu un talk et on a commencé à parler de choses difficiles. Il y a quelqu'un qui a parlé de son expérience de syndicaliste. L'autre, c'était des problèmes de famille. Et ce que nous ont dit les gens des premiers, c'était que l'assise, ça nous permettait, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi, d'ouvrir quelque chose en nous qui fait que les situations ne vont pas changer. Mais quand on va être devant les situations, on va avoir simplement la possibilité de prendre un peu de recul pour pouvoir en fait trouver de l'aisance et pas se laisser happer.
Mmh. C'est ce qu'on dit.
Voilà. Et je voulais dire parce que pour moi, c'est vraiment en fait ce que m'apporte en fait la pratique dans le monde d'aujourd'hui. J'en ai vraiment besoin. Si c'était il y a encore 10 ans, peut-être que j'aurais pas fait, mais aujourd'hui je vois pas comment faire par rapport à toutes les difficultés qui peuvent se présenter.
I didn't catch, and I think it's important. When the stuff gets difficile.
No mundo de hoje é necessário a meditação para ela, com todas as coisas que a gente pode encontrar no caminho. Complicado.
Because I had a question about because this is I understand, but when the stuff gets difficult. I was thinking when you were talking, when I was worried 2 years ago about the money, the bank, my head was like, okay, my wage is not enough. Then I have my children. How can I go do this? The dentist, and then they will need in Portugal. We have to pay dentists. It's not for free. And I was like this. I could not have meditation in that time. And I worried or people having a disease that they know they're going to die, or a cancer. We are people, so we do. It's normal for us to get worried and to have strategies, but it's not very good to be in a.
Yeah.
Because it really puts you down. It was really tough. What I did then was, okay, I have to go to the doctor because I'm not getting out of this. And he helped me. But for me, this is the most challenging stuff to bring in meditation and to be with it and not to go
crazy.
Yeah.
Well, yeah, I mean, often what happens is we say, when I'm having a hard time, when it's difficult, and I'm anxious and everything, I can't sit. when actually that is the time when we can be really the most helpful. Because it helps ground us, stabilize us, it helps our mind become more clear, and the situations don't change. You still have the guy at the bank, you still don't have enough money, your kids still need braces, you know, it's all the same stuff. Your health is not well, whatever. But we respond to it differently.
But what is the trick for us to let us go and engage? I have a lot of tricks, the counting, the whatever. I got a lot of difficult stuff. But there's some difficult that I really, until now, it's not so...
Mesmo com outras pessoas, even with other people, or when you...
With me. With other people, maybe kids.
Ce que je veux dire, moi, ce qui m'aide dans cette situation, c'est la sangha, vraiment. Je veux dire d'être avec d'autres personnes, parce que sinon, c'est, par contre, de le faire seul, pour moi, ça a toujours été très difficile.
It's a good trick, the sangha.
Yeah, the sangha is part of, you know, that we have the Buddha and the Dharma, but the sangha.
Yeah, the sangha. Even if you are in your head, you are there at least.
That's right. And Thich Nhat Hanh, you know, even went so far as to say the Buddha of the 21st century is the sangha, in fact.
Okay.
Yeah.
Oh. But as a touched me a lot.
Well, very
beautiful. Français. En français, une pour les... Monial, homme pour les moniales femmes, une pour les lay people, je sais pas comment on dit en français, les laïcs femmes, et les une pour les laïcs hommes. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment profondément touchée. Quand il a fondé les poignées, parce qu'il était en France, il pouvait pas partir de la maison. Il a dit que tout de suite, il a fait pour 4 sanghas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.
Ça imite ce qui se passe en Asie, en fait. C'est traditionnel, ça. En fait, ces 4 sanghas sont un, en fait.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir à la fois la partie monastique, et la partie laïque, parce que les problèmes de vie sont pas les mêmes, mais en même temps, et on me rappelle, une fois on a beaucoup parlé des problèmes que eux rencontraient par rapport aux problèmes que nous rencontrions. Parce qu'on se disait, vous n'avez pas ces problèmes, mais si, et comment vous faites pour les résoudre? Et je trouvais que c'était intéressant, peut-être parce que la spiritualité pour moi est quelque chose d'important. Et donc, du coup, voilà, c'est important aussi de voir ça, que tout est lié, quoi.
Absolument. Je crois qu'il